J'avais à cœur, dans la continuité de ce qu'on vient de voir sur la vision, comme j'ai fait très vite la dernière fois, de le reprendre à partir d'un texte de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Je vais lire le contexte de ce passage. En commençant à lire à partir du verset 7. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, donc de Jean, l'évangéliste, hein, Jean-Baptiste. Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Juste une parenthèse. Voyez-vous, à chaque fois, il y a certains principes, des perles comme ça, qu'il faut prendre dans la parole de Dieu, qui nous montrent le contenu du cœur de l'Évangile. Hein, cœur de l'Évangile. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui s'adresse aux disciples. Vous voyez d'ailleurs qu'il cherche une interactivité avec ses disciples. Vous voyez, il pose des questions, comme plus tard il dira, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous qui est Jean-Baptiste? Vous voyez, cette interaction que j'aime bien aussi faire avec vous, parce que elle nous met en éveil, elle met notre conscience en éveil pour être attentif à ce qui va suivre. Et vous voyez, là, Jésus, il veut leur faire passer un message disant Jésus, Jean-Baptiste, c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Il faut relever et après il faut chercher le pourquoi. Pourquoi il est le plus grand. Voilà. Mais en même temps, il contrebalance tout de suite une sorte de paradoxe en disant mais chacun d'entre vous est aussi grand que Jean-Baptiste. Et en fait, il y a deux vérités. Il y a une vérité qui est le rôle que Jean-Baptiste avait, qui est très important, et en même temps le fait que chacun d'entre nous, on est aussi grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est la dimension de la grâce, la dimension de l'évangile du royaume. Vous voyez, on n'est pas petit, c'est pour ça aussi dans les temps de guérison qu'on a avec vous, que ce soit dans les retraites spirituelles ou autres, on vous dit, ne vous méprisez pas, parce que vous commettez un péché devant Dieu. Puisque Dieu dit l'inverse de ce que vous dites. Donc, que votre parole, eh bien, soit juste. Hein, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes la Miss Univers si vous ne l'êtes pas. Bon, ce n'est pas ça que la Bible vous demande de faire. Hein. Elle vous demande simplement de dire ce qui est vrai, c'est que vous êtes une merveilleuse créature, parce que Dieu vous a créé merveilleux ou merveilleuse. Voyez? Et que vous ayez une estime de vous-même qui soit juste. Donc, Jésus rappelle là que cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors on arrive au verset 12. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Oh là là, alors là, ce verset a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. John Bieber en a parlé. Tout le monde en parle. Voilà, parce que, voilà, on peut le spiritualiser aussi, le renvoyer à du combat spirituel, le renvoyer à un tas de choses, des allégories. Voilà, toutes les formes d'interprétation biblique, vous voyez, peuvent y passer. Hein. Compréhension littérale, compréhension textuelle, compréhension allégorique, compréhension spiritualisante, enfin bref. Donc, c'est pas ce matin que je vais faire un message sur ce verset-là de manière exhaustive. Je voudrais juste le présenter d'une certaine manière dans le cadre de la vision. Voilà. Dans la vision. Et c'est vrai qu'Olivier a remarqué le clip. Moi, j'ai remarqué le contenu du message où elle a utilisé ce mot « nous croyons ». Nous croyons, we believe. Nous croyons que ces femmes ont un avenir, une destinée. Nous croyons que c'est... Et c'est ça qui fait fonctionner leur ministère et dans le temps, qui les fait durer. Vous voyez, quand on utilise ce mot « nous croyons ». Nous croyons que les choses vont changer. Nous croyons que ces femmes vont avoir une autre vie. Nous croyons que leur destinée va changer. Ça, c'est un langage de visionnaire, un langage de leader qui peuvent durer dans le temps. Parce qu'ils ne sont pas là juste comme des mercenaires ou voilà, qu'on attitre à des tâches. Et c'est ça que nous devrions tous être à notre niveau. À notre niveau, nous devons être des gens passionnés. Passionnés par une cause. Nous croyons, et je voudrais que, effectivement, ce matin, chacun d'entre vous, vous puissiez croire à quelque chose, et entre autres, à la vision de l'Église, puisque je suis là pour ça, pour vous faire croire que la vision de l'Église a une haute destinée que Dieu nous a donnée. Voilà, donc, la notion de violence, la violence, les violents qu'ils ravissent, ça fait partie justement de cette vision qu'on essaye d'une part de vous faire capter. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai élaboré cette vision depuis des années, mais c'est quand je suis allé avec mes fils, Mel et Olivier, à cette conférence de leadership, que effectivement j'ai capté comment communiquer cette vision de manière dynamique. Et comme elle sera en premier sur le site web, c'est important que vous la connaissiez. Puisque tous ceux que vous allez rencontrer ou qui vont sur le site vont voir la vision. Voilà. Avec ces trois interpellations, hein, pourquoi, comment et quoi, ou quel. Je continue la lecture pour aller jusqu'au bout de ce que Jésus a déclaré. Verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Vous savez que Élie avait été annoncé prophétiquement qu'il allait venir avant la venue de Jésus. Et vous savez que Élie aussi va venir avant le retour de Jésus. Donc il y a une certaine relation entre les deux. Que celui qui a des oreilles entende. Quand ce verset-là apparaît, ça veut dire, attention, faites bien attention, j'ai quelque chose de bien important à vous communiquer, qui n'est pas d'une première évidence, mais voilà, il faut écouter, bien écouter. À qui comparerai-je cette génération? Alors là, c'est une sorte de parabole que Jésus va donner. Et je crois que cette parabole s'applique aussi à notre génération. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait et ils ont dit qu'il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant et l'on dit c'est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des péagers, des pêcheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Voyez-vous, quand vous êtes dans une génération comme la nôtre, y compris les chrétiens, parce qu'on a l'esprit du monde dont il faut nous débarrasser, parce que l'esprit du monde est contre l'esprit de Dieu, puisqu'il est animé par Satan qui veut la perte de l'humanité alors que Dieu veut le salut de l'humanité. Donc on est dans un système opposé. Eh bien, dans cette génération-là, qui va vers le retour de Jésus, il y en a qui attendent Jésus. Donc, vous êtes dans cette perspective de l'attente que Jésus revienne. Puisque Jésus est venu, il a commencé l'œuvre de rédemption par la croix. C'est par son sang que nous sommes rachetés. Et que c'est quand, lorsque nous regardons à Jésus, comme les Israélites ont regardé au serpent d'airain, qui était une préfiguration de la croix, quand ils ont regardé, ils étaient sauvés par la foi. Voyez-vous, il n'y avait pas l'inoculation d'un antipoison, machin, etc. C'est par la foi qu'ils étaient guéris. Et il y avait des milliers qui mourraient jusqu'à ce que cette croix soit dressée, quand ils regardaient, ils étaient sauvés. Donc déjà, dans le désert, il y avait cette préfiguration de la croix qui allait venir un jour au milieu des humains. Et il y a 2000 ans, cette croix est apparue et Jésus était dessus. Et si aujourd'hui, pendant toute cette période, jusqu'à son retour, nous regardons à la croix, hein, c'est pour ça que dans l'Église, vous voyez, il y a une sorte de symbolique, on a fait une croix qui était très très longue à faire parce que les marteaux-piqueurs ont dû casser les choses et mettre une croix, etc. Parce que la croix, c'est celle qui doit être au centre de notre foi, au centre de ce que nous croyons fondamentalement, qui est le seul instrument, le seul événement qui a été donné pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Et cette croix, eh bien, préfigure aussi le fait qu'un jour, eh bien, Jésus va revenir comme il est venu, mais non pas comme un enfant, comme un bébé, comme un être humain qui a pris sur lui le péché, mais comme le roi de gloire, comme le Seigneur des Seigneurs, comme celui qui a vaincu la mort, comme celui qui a vaincu toutes les dominations puisqu'elles ont été mises sous ses pieds et qui nous fait régner avec lui sur la terre. Et c'est vrai qu'RNC insiste beaucoup là-dessus et je réinsiste aussi ce matin que notre but, c'est pas de vivre dans le ciel avec les anges, avec des petites ailes, tout ça. Et tout ça, c'était inventé au Moyen-Âge. On appelle ça les imageries d'Épinal, hein, qui se trouvent pas dans la Bible, mais qui sont dans le religieux, et qui nous font croire qu'on va flotter dans les airs comme des petits angelots, et puis jouer de la harpe, et puis y avoir des petites roses autour, voilà, etc. Et manger des bananes, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça que la Bible décrit. C'est la religion qui a décrit ça. La Bible dit que nous régnerons sur la terre avec le Fils de Dieu. Vers qui nous irons pour rendre gloire, rendre la louange à Jérusalem, comme étant le point central que Dieu a utilisé pour se manifester. Et c'est ça que nous attendons, de régner sur la terre. Nous devons déjà régner, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, le péché est là, le diable est encore libéré. Là-bas, il sera enchaîné. Donc, il ne pourra plus faire ce qu'il voudra. Et donc, on sera dans une autre période de temps. Et c'est cette période que nous attendons. Mais en attendant, nous sommes comme ces gens qui sont sur la place publique et qui jouent de la flûte. Pour ceux qui connaissent Paris, parce qu'on n'est pas très loin, vous allez régulièrement à Paris, vous voyez, dans les métros, tout ça, il y a des gens qui jouent de l'accordéon, du violon, de la flûte. Vous voyez ce que je veux dire ? En général, on ne s'arrête pas, parce que bon, déjà, on a un rendez-vous, bon, etc. Mais voilà, c'est un peu ça, sauf que ce n'est pas des clodos, c'est nous hein, qui sommes là en train d'essayer d'attirer les gens en disant « Attendez, 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 il y a quelque chose qui se passe. On a un évangile, on a une bonne nouvelle pour vous, arrêtez-vous et personne ne s'arrête. » Et parfois, les chrétiens sont aussi dans ce hurry, comment on appelle ça, hurry, dans cet empressement, merci, dans cet empressement au quotidien pour faire, 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 faire. Ça, c'est Marthe, voyez-vous ? Faire. Oh oui, bien sûr, c'est pour Jésus. Nous, on ne le fait pas pour le monde, on le fait pour Jésus. Mais Marthe aussi faisait pour Jésus. Voyez ? Et Jésus a dit à Marie, tu as choisi la bonne part. C'est-à-dire, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir prendre le temps. Il faut faire des projets, c'est vrai, hein, on fait des projets, vous voyez. Mais moi, j'étais dans l'industrie, hein, je commandais quand même 200 personnes, tout le site de production. Et je sais ce que c'est que des objectifs. Mais dans l'Église, on n'est pas comme ça. Tout en ayant des objectifs, eh bien, on n'est pas là parce que ça va rentabiliser, apporter tant de pourcents à la fin de l'année, tant d'argent, etc. Non, nous, on travaille en faisant des projets pour glorifier le Seigneur. C'est-à-dire que dans le cadre du projet, on s'épanouit. C'est ça le mandat que Dieu donne à l'être humain. Il le place dans le jardin pour que dans le cadre de son travail, qui est une bénédiction, travailler, eh bien, ils s'épanouissent en travaillant. Est-ce qu'il y en a ici qui s'épanouissent dans leur travail ? Levez la main. Oui, il y en a plusieurs. Oui, non, mais vous n'êtes pas du tout obligé de lever la main. Je dis ça parce qu'il y a des sondages. Quels sont ceux qui aiment bien les sondages? C'est les Américains. Hein. Ils font des sondages sans arrêt. Ils aiment bien les statistiques et tout ça. Eh bien, la caractéristique aux États-Unis, c'est que les gens, ils n'aiment pas leur travail. Oui, c'est bon. Sauf si ça a changé, hein, mais à un moment donné, je m'étais intéressé à cette question-là. Ils n'aiment pas du tout leur travail. Donc je suis content que vous aimiez le travail, hein. Vous n'êtes pas des Américains, et ça montre que en France, en Europe, on a encore des valeurs qui font aimer le travail. Je vous repose la question parce que peut-être vous l'avez pour me faire plaisir. Est-ce qu'il y en a qui aiment leur travail, qui sont contents au travail? Ah non, il y a quand même des bon. Ok, mais je crois que c'est quand même un élément important d'aller au travail avec du plaisir, non? Ouais. Alors, je ne pose pas la question à lui, parce que lui, il est heureux d'aller au travail. Il n'est pas content, il est passionné. Ben, c'est forcément, ils font du paintball, ils font du... Ils s'amusent au travail. Non, mais je plaisante. Mais c'est vrai qu'ils ont une valeur particulière. Bon, ce que je voulais dire, pour revenir à ce jour de flûte-là, de Jésus, pourquoi il prend cet exemple? Parce qu'il dit, voilà... Nous, chrétiens, et à l'époque des disciples, c'est comme si on était sur une place publique et on fait quelque chose qui départ. Oui, on ne fait pas du travail voilà, forcé, on fait quelque chose qui amène un art de vivre, qui amène une qualité de vie. Donc, effectivement, on va le chercher dans le côté artistique, c'est ce que Jésus fait. Et non pas dans le domaine productif. Ça produit, ça rend, c'est rentable, ça apporte. Etc. Non, c'est quelque chose qui apporte. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Hello? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui entendent la flûte? Pardon? Voilà, ils dansent pas, ils participent pas, ils ne contribuent pas à cette joie. Et c'est ça qui caractérise aussi notre société dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous nous enfonçons de plus en plus, société de marchandisation, où le seul bonheur qu'on cherche, c'est à consommer. Consommer plus, consommer plus, consommer plus. Alors que la joie, c'est d'être et non pas de faire, non pas de consommer. Allô ? C'est être. Parce que Dieu a fait de nous un être. Parce que lui-même est un être. Quand Moïse a rencontré Dieu dans ce buisson ardent, c'était quelque chose de terrible. Hein, de rencontrer la sainteté de Dieu. D'ailleurs, Dieu lui a dit, ôte tes souliers, parce que tu es une terre sainte. Et quand il a rencontré Dieu, et que Moïse lui a demandé, mais... Là, il faut que je dise qui j'ai rencontré, parce que voilà, on est seul, et tu me demandes d'aller voir mes compatriotes là en Égypte, mes Israélites, et qu'est-ce que je vais leur dire? Qui es-tu? Qui m'envoie? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis celui qui suis. Yahvé, les quatre lettres du tétragramme hébreu. Je suis celui qui suis. Vous êtes bien avancé avec ça. Hein? Et pourtant, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'être. L'être suprême. L'être au-dessus de tous les êtres. Celui qui est. Et il a fait de nous des êtres. Il veut que nous soyons. Non pas que nous faisions, mais que nous soyons. Nous faisons en étant. Mais nous devons d'abord être des étangs, des êtres. Et c'est ça le sens de la vision. Le fameux why, how, what, c'est ça. Quand Simon Sinek a dit, quand j'ai découvert ça, ça a révolutionné ma vie, et qu'il est devenu celui qu'il est en ce moment, et que le monde entier le connaît par le why, et ben c'est ça qu'il a trouvé, l'être. Le why, c'est l'être. Être. Être quelqu'un, être en situation... Être celui qui a compris sa destinée, être celui qui a réalisé son appel, que Dieu l'a appelé pour quelque chose, c'est l'être. C'est le why. Et on rentre dans l'être en croyant que nous sommes. C'est-à-dire qu'en adhérant à ce Dieu qui est de toute éternité, qui ne change pas, où il n'y a ni ombre de variation de tous les siècles, de toutes les cultures, de toutes les races. Et quand nous rentrons dans l'adoration, justement, dans l'adoration de qui il est, eh bien nous pouvons être aussi, dans notre situation, des personnes différentes, des chrétiens différents. Nous pouvons être. Nous pouvons être comme Marie, qui est devenue celle qui a adoré Jésus et qui a découvert Jésus lorsqu'il est ressuscité et qui a été cette femme que Dieu a utilisée pour annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Croire à une cause qui nous dépasse, c'est être. Donc si on reprend un peu la vision, qui d'ailleurs sera sur le site, hein, c'est basé sur le fait que les grands leaders, et Jésus a été le plus grand leader de tous les temps, et je vais vous montrer pourquoi, en quoi il a incarné ce croire dans le pourquoi il est là, dans le why, pourquoi il est là. Eh bien, c'est cette découverte qu'il a fait, hein, qui est que les grands leaders inspirent l'action. Et c'est le cercle d'or, hein, le cercle d'or. Donc le cercle d'or, c'est effectivement ici le pourquoi, le comment et le quoi ou le quel résultat, etc. Et donc le pourquoi, c'est ce que nous croyons et qui nous motive et qui nous passionne. Et qui est le fondement de pourquoi nous existons. Pourquoi je suis sur la Terre? Qu'est-ce que je fais là? Mais à quoi je sers? C'est toutes ces questions-là, le pourquoi je suis là. Pourquoi Jésus est venu? Parce que, non pas parce qu'il était obligé par le Père de venir. Okay, ça, ça n'aurait pas fait de lui un grand leader. Mais il est venu parce qu'il a endossé cette mission que le Père lui a proposée d'endosser, qui est de sauver l'humanité. Le Messie, le Sauveur. Et avec cette mission, avec cette compréhension de pourquoi il est venu, il est allé jusqu'au bout. Et il a pris la coupe, alors que c'est quelque chose qui le dépassait. Il a dû demander l'aide de son Père. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il est allé jusqu'au bout. Sans être convaincu de pourquoi nous sommes là, nous ne pouvons pas accomplir la mission. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme qui s'est réformée de Mantes, et je l'ai saluée amicalement, parce que je la connaissais, tout ça. Je lui ai dit, alors comment ça va? Elle a dit, j'ai perdu la foi. Je lui ai dit, bon, je ne savais pas qu'on la perdait. Ok, donc je suis avec elle, voilà, elle a perdu la foi. Comme vous, perdez les clés, vous perdez, voilà, etc. Juste pour donner un exemple, quoi. Si elle était convaincue en qui elle croyait, elle ne peut pas perdre, parce que Jésus n'a pas changé. Mais bon, c'est juste pour vous donner une idée quand on est dans la religion, quand on est dans une relation. La foi, c'est une relation avec une personne vivante, et cette personne, eh bien, elle disparaît pas. Hein. Jésus existe toujours. Amen. Les caractéristiques d'un bon leader, ou d'un leadership hein, qui inspire, c'est différent de l'autorité. L'autorité, c'est celui qui commande, qui donne des ordres et qui on exécute les ordres, parce qu'il est l'autorité. Okay. Un leadership, c'est quelqu'un qui inspire, qui transmet le désir de faire la même chose que lui. Et donc une sorte de complicité entre le leader et celui qui le suit. Le leader se sacrifie pour les autres. Il va inspirer la confiance car il garantit la sécurité à son groupe. Pour le PEA, le leader va tout faire pour te faire entrer dans ta destinée. Parce que si ta destinée est importante, eh bien, tu vas adhérer à la destinée de l'ensemble du groupe, parce que c'est la même cause. Alors, voyez-vous, il y a tout plein de dangers dans le monde. Hein, okay. Le leader, il va créer un cercle, et dans ce cercle, il va assurer la sécurité pour l'ensemble du groupe. Et c'est ça le leader inspirant, hein, qui va au travers de cette vision, qu'il a créé, eh bien, montrer que dans ce cadre-là, eh bien, les personnes qui suivent le leader, ils sont en sécurité. Et l'Église, ce n'est pas que moi qui suis leader de l'Église, c'est l'Église qui veut être leader. Donc dans l'Église, vous pouvez trouver la sécurité si vous adhérez à cette vision qui est présentée sur le web, on va voir tout à l'heure. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Le plus grand leader de tous les temps est venu pour se confronter à Satan. Parce que c'est Satan qui est le grand problème de notre humanité. Alors bien sûr, dans le monde, on ne va pas en parler. On va dire que c'est complotiste. Ah, c'est complotiste, oui. Alors, c'est vrai que les satanistes, ils font peur à tout le monde. Et comme il y a beaucoup de choses qui se font de manière cachée, bien sûr, on découvre des cadavres. Voilà, temple solaire, il y avait tout plein qui se sont suicidés, voilà, parce que c'était un cercle sataniste. Donc voilà, on a peur et tout ça. C'est pas parce qu'on a peur que ça n'existe pas. C'est simplement parce qu'on ne voit pas l'étaler, d'en parler tous les jours, c'est pas du tout édifiant. Mais n'empêche que Satan existe. Je me rappelle quand on a acheté ici l'église, j'avais fait venir, je ne sais plus pourquoi, le vicaire général du diocèse de Versailles, donc c'est celui qui peut être le futur évêque, si vous voulez, qui était à l'époque évêque à Saint-Germain. Il était là, et puis on discutait à la table, a dit, et je ne sais pas pourquoi, il a dit, mais Satan, ça n'existe pas. Je dis, ah bon, pourtant Jésus, il a été confronté dans le désert, qu'est-ce que vous en faites, quoi ? Non, ça n'existe pas. Vicaire général, diocèse de Versailles. Hein. Non, c'est un principe du mal. Donc, c'est un principe. C'est comme, là je laisse tomber, c'est un principe, vous voyez. F égale M gamma, c'est un principe, voilà, donc c'est un principe du mal. Vous voyez que même dans une religion chrétienne, eh bien ça fait peur. Satan fait peur, c'est vrai, le diable fait peur. Et le problème, c'est que l'Église catholique a tellement joué sur les peurs que maintenant, ils veulent sortir de ces peurs. Ça, je le comprends. Qu'après avoir fait toute la diabolisation avec les images de l'enfer, avec des cornes au diable et tout ça, qu'ils veulent donner une autre image. Ça, je peux le comprendre, mais ce n'est pas pour autant que le diable n'existe pas. Vous êtes d'accord ? Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il est venu, sa cause. C'était bien sûr de sauver l'humanité parce que le diable l'enferme dans ses griffes et veut l'empêcher. La première chose que le diable fait, il veut nous mentir. C'est le père du... Jésus l'a dit. Et donc, pour nous, dans l'Église, on a choisi un slogan. Un slogan, c'est quelque chose qui définit un principe. C'est clarté, droit... Voilà. Ça résume une démarche, clarté. C'est le contraire d'obscurité. Le diable, il cherche l'obscurité. Il cherche l'ombre, les faux-semblants, les machins, etc. Nous, on aime la clarté. C'est jamais facile de faire la clarté, parce que ça gêne beaucoup de choses. Maintenant, il faut faire la clarté dans l'amour. Hein. Bon, toujours dans l'amour. Clarté, droit. Le droit, c'est la légitimité d'exercer une autorité. L'autorité va suivre, mais il faut une légitimité. Et quelle est la légitimité que Jésus a reçue pour exercer son ministère ? Alors ? Quelle est la légitimité ? La légitimité, c'est le droit de pouvoir exercer un rôle. Hein ? Quand vous êtes n'importe quel travail, ben, on vous fait signer un contrat de travail, c'est une légitimité. Hein, si vous vous placez bureau le lundi matin et puis vous n'avez pas fait ça, votre chef peut dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?» C'est une légitimité. Une légitimité, c'est dans tout domaine, vous devez avoir une légitimité, être légitime dans ce que vous faites. Jésus, où est-ce qu'il a obtenu sa légitimité ? Pardon ? Alors j'ai des réponses différentes là ? Oui ? Oui ? J'ai donné des bons points après pour ceux qui ont gagné. Pardon ? Le baptême, oui, c'était dit déjà. Pardon ? Oui ? Et comment ? Pardon ? Ceci est mon fils bien-aimé. Il est apparu. Il s'est manifesté. Le Père s'est manifesté. C'est un événement. Voyez-vous ? C'est pas juste une pensée. C'est pas le Père m'a envoyé. Ça, c'est pas légitime, ça. Je peux m'envoyer moi-même. Je peux m'auto-envoyer en disant que c'est mon Père. Non. Il faut une réalité légitime. J'ai parlé de contrat. C'est pas vous qui faites le contrat. C'est votre boss que vous faites signer. OK ? Il faut faire attention. Les chrétiens confondent beaucoup de choses. Hein. Sous prétexte que la loi est remplacée par la grâce, la loi, attendez, faut arrêter. Tout est basé sur la loi. La loi, c'est un contrat. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous allez observer ma parole. C'est quoi ? C'est observer la loi. Hein ? Bien sûr, dans l'esprit de la loi. Mais c'est observer la loi. C'est pas parce qu'on est chrétien, effectivement, c'est un mouvement un peu grâce, grâce, voilà, grâce justifie tout, couvre tout. Non, Jésus a dit, je suis venu pour accomplir la loi, mais pas pour l'annuler. Hello ? C'est un peu trop facile, ça. La légitimité s'appuie sur un événement objectif. Jésus a été légitimement établi dans son ministère au moment du baptême, quand les cieux se sont ouverts et quand le Père a parlé, accompagné du Saint-Esprit de la colombe qui est descendu pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là, vous voyez, c'est ça. Donc clarté, droit, légitimité, autorité. On ne peut exercer d'autorité que si on est légitimement établi. Il y a beaucoup trop de leaders qui sont établis illégitimement et tout le monde dit qu'il ne faut pas toucher à loin du Seigneur. C'est faux. C'est faux. Ce sont souvent des gens qui se sont établis eux-mêmes. Je termine parce que je vois que le temps s'écoule. Je n'ai pas du tout prévu cette durée-là. Donc, vous voyez, il a créé un espace. Jésus a créé un espace dans lequel il y a une sécurité. C'est la croix. Si nous voulons chercher autre chose à l'extérieur de cette croix, eh bien nous sommes en danger. Jésus a prévu cet espace-là pendant le temps qui nous sépare de son retour. Jésus, le plus grand leader, a inspiré la confiance à ses disciples. Il s'est donné pour eux. Il leur a lavé les pieds juste avant de se livrer à la croix. Jésus a détruit la mort. Il a légitimement, clos les œuvres du diable. Et la mort, c'est le dernier qui est au-dessus de Satan. Hein. C'est dans l'Apocalypse qui montre qu'il liera Satan et il liera la mort. C'est deux choses différentes. Ce sont deux ennemis, mais l'ennemi de la mort, bien sûr, c'est le plus important. Et voilà, alors, je ne savais pas que les images, les couleurs sortiraient mal, je suis désolé. Voilà comment notre vision fonctionne. Le why, c'est l'appel. Le comment, ce sont les trois cercles ici qui sont établir, ce sont des verbes d'action. Comment est-ce que notre vision fonctionne ? On établit, on prie, on adore. Et on évangélise, on partage la bonne nouvelle de l'évangile. Et le cercle extérieur, qui sont les fruits, qui sont le résultat de cette vision que nous avons, eh bien, ce sont de voir des réalisations dans le domaine de la famille, de l'église, de l'école de formation pratique, dans la ville et dans la société. Voyez-vous, c'est, on commence par le centre et on va à l'extérieur. Donc c'est le pourquoi on existe qui donne sens à l'action, le comment on réalise le pourquoi et les résultats par domaine attendus, voire obtenus, qu'on a déjà obtenu des résultats dans les familles, mais on va continuer pour en avoir d'autres parce que l'appel fait que ces fruits-là vont tomber tout naturellement si on concentre sur notre appel. Et notre appel, c'est que chacun d'entre vous entre dans sa destinée. Et que l'Église entre dans sa destinée. Amen. Donc voilà l'énoncé. Nous croyons que nous sommes appelés à être une communauté d'hommes libérés dans toute leur personnalité pour amener des individus et des familles à connaître qui elles sont et qui est Dieu pour l'aimer avec passion. Cette passion nous conduit à établir des communautés d'hommes et de femmes libérés dans toute leur personnalité qui entrent dans leur destinée à prier, adorer Dieu sans cesse, avec persévérance, à évangéliser comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Grâce à ces projets construits, En cohérence avec ces convictions, nous voyons de véritables transformations dans les familles, qui s'épanouissent en dignité, en excellence, dans l'Église qui grandit en accueil et en dynamisme, dans notre capacité à être une école pratique de formation humaine et spirituelle, dans la ville et la société qui se trouvent influencées progressivement par les valeurs du royaume de Dieu. Cherchez-vous à donner sens à votre vie ? Eh bien, alors venez partager avec nous cette aventure inédite. Voyez-vous, ça c'est une vision présentée comme un leader inspirant. Est-ce que ça vous inspire ? C'est fait pour ça. Et c'est cette vision-là que nous déployons depuis 1998, hein, où nous avons connu des difficultés, mais que nous voulons dépasser par une vision que chacun peut endosser, que chacun peut prendre à son compte, mais qui peut surtout prendre communautairement. Et c'est pourquoi nous faisons des projets. Moving Glad, c'est un projet pour entrer plus dans l'adoration intergénérationnelle. Et la Jahan's Ministry, c'est pour compléter le torrent qui purifie, qui est le torrent de Dieu dans lequel nous voulons passer, qui inclut aussi bien la délivrance spirituelle que la guérison des blessures, que la guérison intergénérationnelle, que la guérison de toutes nos difficultés relationnelles que nous avons dans la famille, dans le travail, etc. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à rentrer dans le torrent, parce que le torrent, c'est celui qui va couler dans l'éternité. Alors pourquoi ne pas rentrer maintenant ? Et nous pouvons y entrer jusqu'aux chevilles, nous pouvons entrer en nageant, hein, jusqu'à ce que nous sommes obligés de nager. Donc c'est un processus dans lequel nous commençons dès maintenant l'éternité, avant même qu'il ne commence, parce que nous sommes dans l'éternité avec la vie que Dieu nous a donnée. Et Évangile 21, Gospel Coalition, c'est une évangélisation centrée sur la croix et non pas sur d'autres préoccupations qui nous enlèvent du but et de l'appel qui est le nôtre, qui est celui d'être un leader influent. Et alors, nous pouvons jouer sur la place et peut-être notre flûte va être un petit peu de meilleure qualité. Le son, peut-être, va attirer des gens qui cherchent ça. Martin Luther King, un homme influent, sa cause, c'était quoi ? Sa cause, c'était quoi, ça ? Le why. C'est quoi son why ? Pourquoi il était un leader influent ? Le why de Jésus, on l'a dit, c'était de sauver l'humanité. C'était son why. Pourquoi il était là ? Pour détruire les œuvres du diable, pour libérer les captifs. Le why de Pasteur Martin Luther King, c'était quoi ? Amusez-vous à faire comme ça des défilés d'hommes d'influence et de trouver le why. Et comme ça, ça va mieux rentrer la vision. C'est quoi le why de Martin Luther King ? Et quel rêve ? Quel rêve ? Oui ? Pardon ? Voilà, c'est l'abolition, bon c'est des grands mots, hein, mais c'est l'abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis. Parce que dans les bus, les Noirs ne pouvaient pas être avec les Blancs, etc., etc. Hein, en dessous d'Atlanta, voilà, il y avait une ségrégation raciale aux États-Unis. Un pays fondé par les Pilgrim Fathers, où on met bien haut les valeurs chrétiennes. Vous voyez ? Comme quoi ? Ne cherchons pas trop à monter trop haut, restons à notre niveau et acceptons nos limites. Il y a quelques années encore, eh bien, c'était la ségrégation raciale aux États-Unis, une nation chrétienne. Martin Luther King voulait abolir ça. Et c'était pour ça qu'il a vécu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, le comment. Comment il est arrivé ? Quels sont les comment qu'il a mis en place ? Nous, c'est établir, c'est prier et c'est évangéliser. Lui, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre, mettre en œuvre cet appel, ce why ? Le how, c'est quoi ? C'est des principes. Le principe de non-violence. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est allé chercher en Inde avec Gandhi, qui lui aussi était un grand leader. Et Gandhi, il a vu que quand on ne verse pas le sang, qu'on le fait par la non-violence, eh bien, on arrive mieux que si on le fait par la violence. Il a adopté les principes évangéliques, mais en le cherchant en Inde. Désolé. Gandhi lui-même, d'ailleurs, a cherché chez les chrétiens, il n'a pas trouvé. Et il a failli être chrétien, mais il a été déçu par les chrétiens. Voyez-vous comme quoi nous ne sommes pas cette lumière qu'on devrait être Alors changeons le logiciel, changeons notre logiciel. Soyons des gens animés par cette vocation de faire entrer les gens dans leur destinée. Et non pas en les critiquant, non pas en les jugeant, non pas en cherchant les problèmes, non pas en cherchant les failles, mais cherchons à les faire entrer dans leur destinée, pas la mienne, la tienne, la tienne, la tienne. Et là, le moyen que j'utiliserai, c'est pas la critique, c'est pas le machin, c'est de chercher à aider. Où est-ce que tu es bon? Où est-ce que tu peux aller faire ça, etc. Vous voyez? Et là, nous devenons des leaders qui donnent envie. Et le jour où il y a eu la marche, quand Martin Luther King a convoqué à Washington, c'était, je sais pas combien, 400 000. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus, ces personnes? Pour Martin Luther King? Non. Ils sont venus pour la cause qu'il a défendue. C'est-à-dire la ségrégation, l'abolition de la ségrégation raciale. Voyez-vous, quand un leader est influent, les gens vont pour la cause. Pourquoi il le fait? Et nous, Église d'Aubergenville, nous voulons être une ville-refuge. Aubergenville a été cette ville-refuge à la réforme protestante. Et c'est pour ça que cette ville-là a protégé les chrétiens protestants pendant de longues années. Ben, nous pouvons être cette ville-refuge. Nous pouvons être ces gens qui jouent la flûte. C'est vrai que on va pas faire un grand concert où tout le monde va écouter. Mais les gens qui cherchent, ils vont nous rejoindre. Amen. Ils vont nous rejoindre parce qu'ils ont envie de la même vérité. Ils ont envie de la même justice. Ils ont envie de la même chose. Parce que dans ce monde perdu, il n'y a plus de sens. Et ils cherchent du sens. Et nous devons donner du sens. Et le sens, il est là. Il n'est pas au fruit. Il n'est pas la meilleure école du dimanche. Il n'est pas la meilleure louange. Il n'est pas la meilleure prédication. Il n'est pas la meilleure... Non. Ça, c'est un after fact. C'est un résultat. Mais nous devons être convaincus de pourquoi nous sommes là. Amen. Voilà donc ce vision qui va être présentée sur le site, et j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous de l'expliquer à d'autres, à condition que vous soyez convaincus que vous êtes là pour ça. Amen. Et en te priant, afin que cette vision qui va être exposée au grand public soit suffisamment simple comme l'a été pour Martin Luther King, que la cause pour laquelle nous sommes là, c'est d'amener le royaume de Dieu dans le présent local, dans le présent temporel, pour que, Seigneur, nous puissions avoir la satisfaction de voir que nous ne sommes pas passés ici pour rien, que, Seigneur, nous avons effectivement eu un impact sur notre génération, pour qu'elle puisse connaître la bonne nouvelle du royaume et y entrer avec joie. Seigneur, merci de nous aider dans le nom de Jésus. Amen.